vous avez d'une part les partisans d'une intervention musclée et de très grande importance et qui pourrait amener à jouer un rôle de prévention de conflit, c'est-à-dire à essayer de faire en sorte que le conflit qui est déjà présent au Burundi ne puisse pas dégénérer en un conflit beaucoup plus violent. Par ailleurs, vous avez aussi les partisans de ceux qui ne sont pas nécessairement pour une intervention massive, mais plutôt pour accroître une présence de l'ONU dans ce pays. Et entre ces deux visions, mais ce qui est l'autre, entre ces deux visions principalement, je crois que l'ONU a opté pour l'option minimaliste, une option minimaliste qui prévoit uniquement au fait des observateurs, c'est-à-dire des forces qui risquent d'être des forces non armées et qui seront que de forces d'observation qui n'auront aucune capacité d'action ni de suffisamment nombreux pour être présents sur tous les lieux où il y aura des problèmes au Burundi.
Comment expliquer cet aspect timoré des Nations Unies ?
D'une part, on peut penser que le conflit burundais n'intéresse pas nécessairement beaucoup de monde dans le sens où c'est un conflit qui n'est pas présent dans les médias, comme par exemple le conflit irakien ou le conflit syrien ou le conflit libyen. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a juste à côté du Burundi une force des Nations Unies qui est la MONUSCO et qui est quand même la plus grande force des Nations Unies au monde et qui greffe déjà suffisamment, je pense, les budgets des Nations Unies. Et donc, de ce point de vue-là, les grandes puissances qui sont engagées déjà sur plusieurs terrains, je pense, ne sont pas très regardants par rapport à ce qui se passe au Burundi.
Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement de Pierre Nkurunziza s'en sort bien avec cette résolution à minima ?
Le gouvernement de Pierre Nkurunziza s'en sort nettement bien avec cette résolution, puisque dans les déclarations donc, du gouvernement burundais, ils veulent que cette force soit la plus minimaliste possible, donc entre 20 et 30 personnes. Alors, vous imaginez entre 20 et 30 personnes dans un pays comme le Burundi, et ces personnes sont censées, soi-disant, protéger la population, soi-disant, essayer de voir dans quelle mesure intervenir pour éviter qu'il puisse y avoir des exactions. Je pense que vraiment, ce n'est pas comme si on jetait une goutte d'eau dans la mer dans le cadre de la résolution de la crise burundaise.
Le Burundi paie-t-il les divergences de vues ou la rivalité entre les États-Unis et la France dans l'Afrique des Grands Lacs ?
Il y a deux choses à bien mettre en exergue. Quand on a suivi les différents débats qui ont eu lieu dans les Grands Lacs, on a bien vu qu'il y avait une option, une politique américaine qui est très très différente de la politique française. Notamment, la France n'a pas été très virulente, notamment sur toutes les questions liées à la problématique du troisième mandat, contrairement aux États-Unis qui ont été très fermes et très clairs sur ces différents régimes qui ont modifié les règles du jeu pour maintenir au pouvoir. Et la France l'a été beaucoup plus timorée que les États-Unis. Et donc là aussi, on peut bien mettre en exergue et bien voir que la position française va beaucoup plus dans une position de ne pas trop s'impliquer sur les affaires intérieures de ces pays et d'espérer garder une capacité d'influence sur ces régimes, ce qui n'est pas le cas des États-Unis vis-à-vis des différents régimes. Je pense aussi, vis-à-vis de la France, c'est aussi un souci d'essayer de maintenir sa zone d'influence dans cette région, du moins depuis le génocide rwandais, où ils ont été quand même mal partis dans le cadre de leur politique étrangère, dans le cadre de leur politique africaine. Et donc cette prise de position, de mon point de vue, par rapport à la politique française, on a plus l'impression vraiment que c'est une recherche d'alliances stratégiques avec des régimes qui sont omis, pas aussi bien par la société civile que la population, et aussi par une partie de la communauté internationale.